Bonjour, alors merci beaucoup de votre exposé. Une question sur l'assiette harmonisée pour tous les revenus, y compris les revenus du capital. Comment est-ce que vous traiteriez les revenus de l'épargne et notamment les plus-values? Est-ce que vous voulez aussi la progressivité pourrait s'appliquer?
Donc, à mon avis, donc, sur le problème donc, de l'harmonisation fiscale, oui, si on prend pour principe une base élargie à l'ensemble des revenus, le système idéal est un système donc, qui a une neutralité entre les sociétés, donc le impôt sur les sociétés et entreprises individuelles. Donc il faut intégrer l'impôt sur les sociétés avec l'impôt sur le revenu, de sorte que l'impôt sur les sociétés soit effectivement devienne de facto un prélèvement à la source. Donc c'était un peu la façon dont ça fonctionnait avec l'avoir fiscal, sauf que l'avoir fiscal ne marchait très mal avec les problèmes internationaux. Donc si on a un système pleinement intégré, impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, dans ce cas-là, les plus-values doivent être taxées à taux plein selon le barème de l'impôt progressif.
Serge Kron.
Oui, d'accord. Bon, donc on a eu un exposé au début qui nous a parlé de la taxation sur les très hauts revenus et sur les très bas revenus. Mais on n'a pas eu sur ce qui est entre les deux. Alors l'avantage sur les très hauts revenus et les très bas revenus, c'est que dans les deux cas, le critère qui est celui du besoin colle bien et largement peut suffire, bien que sur les très hauts revenus, il y a la participation, c'est même plus compliqué. Les très hauts revenus, quelques millions de moins, ça ne change rien du point de vue du besoin. Maintenant, donc, qu'en est-il si on va sur tous les revenus intermédiaires? Là, on va rencontrer plusieurs choses. D'abord, une chose qu'on va aussi rencontrer dans les deux cas qu'on a vus, c'est que j'ai été surpris de voir que ce qui est écrit au tableau, c'est en français, et c'est exprimé en français, et que la première formule avait T fonction de Z, Z étant le revenu. Alors que dans le cas de la plupart des gens ici qui payent un impôt, c'est T qui est fonction de 35 multiplié par W, où W est le salaire horaire. Parce qu'en général, la plupart de ces gens ici travaillent plus de 35 heures. Donc ça peut changer quelque chose. Un deuxième point, c'est la question de mettre tous les revenus ensemble, pour la neutralité. Alors de nouveau, pour les hauts revenus, pour la raison que j'indiquais, ça peut se comprendre. Pour des revenus intermédiaires, divers impôts ont des raisons différentes, des logiques différentes. Dans la logique de l'impôt, il n'y a évidemment pas que le besoin, quelle que soit la façon dont on l'exprime, mais il y a aussi des références au mérite, il y a aussi des références à la liberté, il y a aussi des références à la chance, on peut penser par exemple à l'héritage, ou simplement aux lois qui disent ce qu'on laisse à la personne qui trouve un trésor. Et là, je ne parle pas seulement, ça c'est de l'éthique, mais c'est aussi de la sociologie, c'est de savoir ce que pensent les Français, l'ensemble de la population. Par exemple, si on trouve que l'héritage est immérité, essayer de proposer une suppression complète de l'héritage, ça ne sera guère possible. Juste une dernière remarque, je crois que pour E3, c'est-à-dire sur les hauts salaires, je pense qu'en général, les très hauts salaires, quand ils sont négociés, ils le sont, les deux parties tenant compte de ce qui est après impôt. En général.
Merci, je crois qu'il y avait une question là, oui.
Non. Oui. Au sujet, vous avez dit que les plus-values devaient être taxées, mais est-ce qu'on doit détaxer les moins-values, c'est-à-dire rendre d'argent quand il y a des moins-values? Parce que dans le cas où on ne rendrait pas d'argent dans le cas des moins-values, si un actif risqué, pour le cas d'un actif risqué, c'est un peu comme si on le taxait plus que le taux marginal.
Je vais repasser la parole à
Raphaël.
Peut-être qu'on va prendre trois questions et puis peut-être faire une réponse jointe et après prendre un autre paquet. Antoine.
Avant les plus-values, il y a l'imposition du capital et vous n'en avez vraiment pas à parler, à part dire qu'il faudrait que ça soit neutre par rapport à tous les types de revenus, mais ça n'épuise vraiment pas le sujet.
On ne comprend rien du tout.
J'ai pas un fil assez long pour
faire que la fin. Normalement, il y en a un peut-être celui-ci.
Non, je voulais dire que vous n'aviez pratiquement pas parlé de l'imposition sur le capital, qui renvoie à une logique totalement différente.
Une dernière question, et je repasse la parole à Emmanuel. Oui, je vous en prie.
Merci. Vous avez parlé d'imposition sur le revenu, essentiellement, et sur toutes les sources de revenus, mais comment peut-on envisager un système fiscal optimal avec toutes les distorsions qui sont introduites par les impôts sur les produits, et en particulier dans le transparent que vous n'avez pas montré. Vous parliez de l'impôt vert sur les émissions de dioxyde de carbone. Il y a tout un débat sur l'effet régressif possible de cette taxe.
Bon, je crois que ça fait un contingent qui est déjà assez impressionnant.
Première question, donc, sur les revenus intermédiaires. Donc, la théorie produit des formules aussi hein, sur les revenus intermédiaires, mais la raison pour laquelle je ne les ai pas montrées, c'est que les problèmes que vous mentionnez sont plus importants. C'est-à-dire comment est-ce qu'on détermine les poids sociaux au niveau des revenus intermédiaires. En fait, ces poids sociaux sont exogènes hein, dans la théorie que j'ai décrite. Donc ça marche assez bien au top où on dit qu'ils sont zéro, dans le bas de la distribution où naturellement ils vont être plus que 1, mais là le profil dans le milieu de la distribution n'est pas évident. C'est pour ça que ces formules ne sont pas très très éclairantes pour le problème des revenus intermédiaires. Et je suis pleinement d'accord avec vous donc, qu'il faut développer donc, des concepts de justice ou de critères de choix social qui sont plus éclairantes pour nous dire quel est le profil de ces poids sociaux plutôt que les formules qui considèrent ces poids sociaux comme données. Donc 35 fois W, je ne sais pas si vous voulez parler en fait des heures supplémentaires défiscalisées. Oui, donc ça, comme tous les économistes, je pense, hein, dans cette salle, très très mauvaise mesure parce que ça introduit...
Je ne suis peut-être pas économiste, mais...
OK. En tout cas, donc, mon point de vue, donc, probablement très mauvaise mesure, tout simplement parce que H, donc si Z, c'est W fois H, H est très difficile à observer et peut être manipulé relativement facilement. Donc, fort coût d'administration pour un objectif peut-être louable hein, en théorie, mais qui en pratique va être difficile.
Puis-je répondre ici ?
Rapidement, Serge, hein, parce que sans ça, le débat risque de durer longtemps.
J'ai entendu, donc, des gens de Bercy m'ont dit qu'il n'y avait pas vraiment de triche et pas vraiment de coût d'administration. À un moment, ils m'ont donné un argument qui m'a surpris, jusqu'à ce que j'ai lu un papier très récemment. Et cet argument était que sauf les très très petites entreprises, les gens le savent et il y aurait des dénonciations. Ça m'a surpris. Jusqu'à ce que j'ai vu un très bon article de M. Emmanuel Saez, il m'expliquait exactement tout ça, en détail, et très bien.
Donc, merci. Tu peux continuer héritage, épargne, etc. Le problème donc, de l'héritage d'un problème compliqué, donc la taxation optimale des héritages, taux préférentiel pour l'épargne. Il y a des logiques propres que je n'ai évidemment pas du tout abordées ici, où je pensais hein, à la taxation des revenus du travail. Donc il y a une vaste littérature. Il n'est pas évident que les économistes soient arrivés à obtenir une théorie de la taxation de l'héritage ou du capital qui est complètement convaincante. On continue à y travailler, donc on va voir si on peut faire du progrès aussi sur ces questions. Donc E3, après impôt, là je suis pas d'accord avec vous, parce que si c'était vrai, si on matraque les riches fiscalement, on devrait voir les revenus avant impôt augmenter, et c'est pas du tout ce qu'on voit empiriquement. C'est-à-dire que partout où les riches sont vraiment matraqués, les revenus avant impôt sont en général plus faibles que dans les pays qui ont une faible fiscalité. Les moins-values, donc c'est une question technique. Donc c'est la taxation des plus-values est compliquée. Donc le problème, en général, les moins-values ne donnent pas droit à une déduction d'impôt parce que plus-value, moins-value, c'est toujours manipulable. Et donc on sait depuis très longtemps, c'est la fameuse stratégie de Stiglitz, ayez un portfolio très très diversifié, et si les moins-values sont déductibles, ne réalisez que les moins-values, donc pour pousser les plus-values. Donc il y a des possibilités de manipulation. En principe, le système idéal, je ne suis pas sûr qu'il est applicable, les moins-values ne sont pas déductibles d'impôts, sauf si la personne peut prouver qu'il n'y a pas de plus-value non réalisée dans son portfolio. D'accord ? Donc c'est, administrativement, ce n'est pas évident de mettre en place, mais je pense que ce serait le système idéal. Donc, imposition, j'ai eu une question donc, sur l'imposition du capital, donc même réponse, hein, c'est des logiques différentes, beaucoup de complications. Je ne suis pas sûr qu'on ait une théorie pleinement convaincante encore. Donc, imposition, impôt vert et TVA. Donc, ce qu'on sait de la théorie, c'est que, et donc c'est le fameux théorème d'Atkinson, Stiglitz, dès lors qu'on a un impôt sur le revenu non linéaire, si certaines conditions qui paraissent raisonnables dans le cas de la plupart des biens de consommation sont satisfaites, il ne faut pas taxer à des taux différenciés les différents biens. Même si certains biens sont consommés par des personnes à faible revenu et d'autres sont consommés par des personnes à haut revenu, par exemple voitures de luxe, il n'y a pas de raison de taxer les voitures de luxe davantage que, par exemple, la nourriture. Donc, dans les faits, il y a une pression politique qui va faire que c'est très difficile de maintenir un taux de TVA uniforme parce que naturellement, les gens vont dire voiture de luxe, c'est pour les riches, nourriture, donc plus pour les pauvres, donc il faut un traitement fiscal différent. Donc, la situation idéale peut être éliminer complètement la TVA et la remplacer par un impôt progressif sur le revenu plus élevé, ou dans tous les cas, éliminer les taux préférentiels de TVA et faire un ajustement dans l'impôt sur le revenu ou les aides dans les bas revenus qui rétablit la redistribution qu'on a perdue en uniformisant les taux de TVA. Donc l'impôt vert sur les émissions de CO2 peut être pensé exactement de la même façon. On veut un impôt vert sur le CO2, sur les émissions donc de carbone, parce qu'il y a une externalité, donc changement, réchauffement climatique. Mais évidemment, si ce sont les bas revenus qui émettent ou consomment relativement plus donc de biens à production de carbone, par exemple l'essence, on veut ajuster, en même temps qu'on crée l'impôt vert, on veut faire un ajustement sur le profil des transferts et de l'impôt sur le revenu, qui de fait défait l'effet régressif de l'impôt vert. Ce qui fait qu'au bout du compte, on a l'impôt vert avec une correction redistributive, ce qui fait que rien n'est changé au point de vue de la redistribution. Et si on peut le faire de manière transparente, c'est encore mieux, parce que dans ces cas-là, les populations seront sans doute davantage en faveur de développer les impôts verts, si on sait que redistributivement, c'est neutre, au bout du compte, grâce à cet ajustement.
Merci. On a encore le temps pour quelques questions. Oui.
On voit bien, vous avez bien expliqué en quoi les réformes fiscales récentes en France, en Angleterre, aux États-Unis peuvent être appréhendées et expliquées par les recherches récentes en théorie de la taxation optimale. Il y a aussi eu beaucoup de réformes fiscales récemment dans les pays en voie de développement. Beaucoup de développement de la TVA et des transferts conditionnels à l'éducation notamment. Est-ce que vous pensez que tout ça peut être réfléchi et appréhendé par cette même théorie de la taxation optimale, ou est-ce qu'il nous faut un autre cadre pour appréhender le cas spécifique des pays en voie de développement ?
Merci. Oui, là, ça va être assez difficile de nous atteindre avec le micro. Donc là, il faut vraiment que vous l'urgiez.
Ça va ? Compris ? On a une question là, oui.
Bonsoir, merci beaucoup pour cette exposé. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir, c'est la simplification administrative qui est quelque chose d'extrêmement séduisant en fait dans ce que vous présentez. Et qui me pose question parce qu'en fait, beaucoup de régulateurs, enfin, les régulateurs de plusieurs ministères utilisent le guichet unique ou le passage impôt sur le revenu pour faire passer énormément de régulations, que ce soit des régulations qui visent à compenser les personnes défavorisées, pas par leur revenu mais par leur situation géographique ou quelque chose comme ça, ou bien pour les externalités type CO2 par exemple. Si on simplifie tout ça pour faire un unique barème sur le CO2, il faut trouver d'autres guichets pour faire passer toutes ces régulations que le régulateur a de bonnes raisons de vouloir mettre en place pour d'autres raisons que pour la redistribution. Et à ce moment-là, est-ce que simplement on n'a pas l'impression de simplifier le guichet impôt sur le revenu pour compliquer énormément des nouveaux guichets qui seraient voués à chaque régulation typiquement? Et est-ce que quand on ne regarde pas ça dans son ensemble, on n'a pas finalement un gain assez faible sur cette simplification?
Oui, il y avait encore une question là, oui.
Globalement, dans votre proposition de... Globalement, dans votre proposition de réforme fiscale, vous parlez essentiellement de la réforme des impôts directs, vous avez parlé de l'impôt sur le revenu, de la PPE, du RSA, mais finalement en France, une grande partie de la redistribution implicitement se fait à travers les allègements de charges sociales sur les bases salaires, et donc quid un petit peu d'articulation entre le côté fiscal de la taxation directe et le côté cotisation sociale de la taxation directe? Qu'est-ce que vous en pensez à ce niveau?
Peut-être la dernière question, oui, tout au fond là-bas.
Pour définir les revenus, et il semble exogène à votre modèle, donc est-ce que vous avez des pistes pour savoir comment on devrait le définir dans la pratique?
Donc, pays en voie de développement, hein, donc c'est encore un autre sujet, je dirais brièvement, dans les pays en voie de développement, la politique fiscale, c'est vraiment tout d'abord l'administration fiscale. C'est-à-dire que le problème numéro un dans les voies en développement, c'est comment collecter du revenu. Donc qu'est-ce que le gouvernement peut observer et comment collecter du revenu? Donc je pense que des modèles de tax enforcement, en anglais, sont clés pour comprendre la taxation dans les pays en voie de développement. Gordon et Lee ont un papier récent là-dessus. J'ai moi-même commencé à travailler un peu sur ces questions de tax enforcement. Je ne trouve plus mes mots en français, c'est heure tardive, mais donc voilà. Individualisation. De facto, on a vu, hein, avec le développement de la CSG, etc., une individualisation partielle et cachée de l'impôt sur le revenu, si on considère la CSG comme une partie de l'impôt sur le revenu. Donc c'est sûr qu'il y aura des gagnants et des perdants, donc c'est une question très, très sensible. Et donc, à mon avis, ce qu'il faut poser le plus clairement possible, montrer donc qui gagne et qui perd, et après ce sera aux politiques de décider si ce genre de transferts sont acceptables ou non. Et la façon la plus claire de le faire, c'est de montrer clairement quels sont les transferts par enfant ou par situation de famille, tu vois, et de passer d'un système à l'autre en fonction du revenu. Et il est sûr que si on propose une réforme globale dans ce sens en France, on aura tous ces tableaux qui montreront très clairement quels sont les gagnants et les perdants. Mais enfin, j'ai sans doute pas fait justice ce soir au problème de l'individualisation, j'en ai vraiment parlé très très brièvement, et j'ai conscience que c'est un sujet très sensible. Simplification administrative, dans le système idéal, en principe il y aurait un relativement faible nombre de paramètres qui déterminent l'allocation en fonction de la situation familiale et du revenu. Quand le régulateur veut introduire un autre impôt, mettons l'impôt vert pour des raisons d'externalité, idéalement, donc, les chercheurs dans les ministères calculent quel est l'effet redistributif de l'impôt vert. Comment changer ces quelques paramètres donc, pour les allocations sous conditions de revenus et les taux d'imposition qui nous permettent de revenir assez grossièrement, évidemment, hein, ça ne va pas être exact pour toutes les personnes, à la neutralité fiscale. Donc politiquement, il faut essayer de penser un système où à chaque fois qu'il y a une régulation qui a des conséquences importantes sur la distribution, automatiquement, un rapport doit être fait, comment ajuster RMI, RSA, enfin toutes ces allocations sous conditions de ressources, qui permet de restaurer la neutralité. Donc, charge sociale. J'en ai parlé un peu en ce sens que je pense que les allègements de charges sociales sur les bas salaires sont une réforme qui va dans la bonne direction. Plus globalement se pose le problème de pourquoi faire payer uniquement par les salaires un certain nombre donc, de charges qui financent des programmes comme donc santé ou allocation familiale, qui sont vraiment pour le bénéfice de tous, qu'on soit travailleurs, rentiers, retraités, etc. À mon avis, il n'y a pas forcément de justification théorique. Donc si on veut un système neutre pour revenus du travail et revenus du capital, il serait peut-être plus rationnel de remplacer ces allocations qui sont des taxes pures par par des impôts plus élevés sur une base élargie. Dernière question, endogène. En fait, la beauté, si vous voulez, de la formule qui était proposée ici, c'est que le paramètre de Pareto A est en fait très très stable sur le top de la distribution. C'est-à-dire que le A qu'on va calculer, qui dépend de Z étoile, va en fait être à peu près le même qu'on mette 100 000 dollars, 200 000 dollars, 300 000 dollars, 400 000 dollars. Donc, si l'élasticité est constante, la même formule s'applique n'importe où dans la distribution. Donc, il faut décider à quel niveau de la distribution on veut véritablement maximiser les recettes fiscales, c'est-à-dire véritablement faire un impôt maximal sur les très riches. Donc, ça dépendra sans doute des préférences pour la redistribution de la société. Donc, on peut penser qu'à un niveau très élevé, mettons 500 000 euros ou 1 million d'euros, il est raisonnable d'appliquer cette formule. C'est moins évident si on pense à des hauts salaires qui sont hauts, mais pas extrêmement hauts, par exemple 100 000 dollars. On veut peut-être être un peu en dessous. Ça revient à la question du profil des poids sociaux.
Merci Emmanuel. Je crois que nous allons conclure ici cette présentation. Je crois que c'était une présentation exemplaire par quelqu'un d'exemplaire. Je crois que je m'adresse ici à tous les élèves qui suivent les programmes de l'École d'économie de Paris. Présentation exemplaire parce que ça montre bien l'intérêt de l'économie, de la théorie économique, de l'empirie économique pour analyser des problèmes quotidiens, des problèmes de politique, des problèmes d'éthique, de justice. Et je crois qu'on a, durant toutes ces présentations, eu la preuve de l'extraordinaire utilité de la démarche économique de ce point de vue-là. Par quelqu'un d'exemplaire, certainement à plus d'un titre, je ne l'ai pas dit au début parce que je ne suis pas un fanat des cocoricos, mais je crois qu'il faut même rappeler qu'il y a 13 ans, je crois à peu près, Emmanuel était dans ces lieux. Donc vous voyez, pour tous ceux d'entre vous qui sont aujourd'hui au stade où il en était il y a 13 ans, quel avenir glorieux s'annonce devant vous. Voilà, merci beaucoup Emmanuel, je crois que...